Vous êtes sur RTL. RTL Midi,
le 12-30,
avec Olivier Bois.
Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans RTL Midi, ravi de vous retrouver. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h30, 2h d'infos, de débats, mais aussi d'opinions. Vous nous appelez comme tous les jours au 32-10, à partir de 13h, dans les auditeurs ont la parole. À la une de votre journal, d'abord cette erreur médicale hallucinante. Patrick Tégéraud a rencontré à Toulouse un homme à qui on a enlevé une partie des poumons après un diagnostic de cancer, avant de se rendre compte qu'il y avait eu confusion avec une autre patiente. Comment peut-on rouler à l'huile de friture? On va bientôt avoir le droit, Christophe Bourou nous dira comment ça marche. Emmanuel Macron, lui, se refait une santé, sa popularité est en hausse dans notre sondage BVA RTL Orange. Visiblement, l'art du compromis séduit les Français. Et puis le chantage de Poutine sur le gaz, sur le blé, commence-t-il à fonctionner? Moscou et Kiev doivent signer un accord sur les exportations aujourd'hui. On essaiera de voir ce qu'a obtenu Vladimir Poutine en échange. Et puis la question du jour, le Covid vous inquiète-t-il toujours? Vous avez répondu oui à 45%, non à 51%. La météo, bonjour Valérie Quintin.
Bonjour.
Des orages dans le nord cet après-midi.
Oui, ça y est, ça commence. Alors pour l'instant, ils sont présents en Anjou, encore en région centre, mais ça va tomber assez dru sur la Normandie. 4 départements sont placés en vigilance orange, la Seine-et-Marne, l'Eure, mais aussi vers les Hauts-de-France, puisque ça concerne l'Oise et la Somme. On va avoir des orages et des précipitations très fortes. Ce sera bref, mais assez intense. Et puis on a donc ces orages qui vont traverser la moitié nord. Dans le sud, ce sera un petit peu plus ensoleillé, avec des températures, ma foi, qui se maintiennent. 22 degrés à Cherbourg cet après-midi, 28 à Paris, 30 à Limoges, 31 à Nancy, 37 degrés à Lyon, ça reste très chaud dans la vallée du Rhône et 39 même à Montélimar.
Merci Valérie Quintin, on vous retrouve à 13h, notamment pour la météo du week-end.
RTL Midi.
Et donc d'abord cette terrible méprise médicale à Toulouse. Un homme, je vous le disais, à qui on détecte en 2018 un cancer des poumons, qui se fait enlever dans la foulée une partie de l'organe avant de se rendre compte qu'il n'avait absolument rien. Bonjour Patrick Tégéraud.
Bonjour Olivier, bonjour à tous.
Alors vous avez rencontré cet homme. Les équipes médicales ont confondu avec les analyses d'une autre patiente. Comment est-ce que c'est possible ?
Eh bien, l'assurance l'a reconnu quelque part en versant une provision. C'est la faute du laboratoire d'analyse. Une faute dramatique, scandaleuse selon Paul. Ce matin, il regrette encore que ce laboratoire n'ait pas été inquiété. Une première plainte contre X a été classée sans suite. Alors avec son avocat, Laurent Decaune, il a saisi le doyen des juges d'instruction. Car la traçabilité est l'essence même de la profession. Ce sont les mots de Paul, victime d'une erreur handicapante. L'expertise des prélèvements cancéreux a mis en évidence un ADN féminin. Les échantillons ont été échangés avec ceux d'une femme, elle, réellement malade. Et c'est l'autre scandale de cette affaire. Qu'est-elle devenue ? Paul a alerté l'agence régionale de santé, pas de réponse, et c'est l'omerta dans tout le milieu médical à Montauban. Paul se souviendra toute sa vie de l'annonce du chirurgien après l'opération réalisée de main de maître. J'ai une bonne nouvelle, vous n'avez pas de cancer. J'ai aussi une mauvaise nouvelle, on vous a enlevé deux lobes du poumon droit pour rien. Stupéfaction et colère, car à 61 ans, Paul est essoufflé au premier escalier et quand il monte deux étages, il doit s'asseoir sur le palier sans parler du traumatisme. Il me l'a dit ce matin, on m'a mutilé, on m'a volé ma vieillesse.
Histoire terrible et hallucinante. Merci beaucoup Patrick Tégéraud à Toulouse pour RTL. Après 4 jours de débat et au bout de la nuit, juste avant 6h ce matin, l'Assemblée a donc adopté en première lecture le projet de loi pouvoir d'achat pour atténuer les effets de l'inflation. On peut citer notamment le plafonnement de la hausse des loyers ou encore l'augmentation des retraites et des minima sociaux. Et puis il y a cet article surprise pour le coup proposé par Europe Écologie Les Verts qui autorise à rouler à l'huile de friture usagée. Bonjour Christophe Bourou.
Bonjour.
Notre spécialiste auto, comment ça marche l'huile comme carburant ?
Alors il s'agit d'incorporer en fait de l'huile dans du carburant et c'est dans du diesel. Si vous avez une voiture essence, cela ne fonctionne pas. C'est de l'huile usagée qui peut être récupérée auprès des restaurants, des cantines, des fast-foods et qui doit impérativement être filtrée. Sinon vous risquez des pépins mécaniques, voire une casse du moteur. En revanche, correctement décanté, 10 litres d'huile usagée peuvent donner 8 litres de carburant tout en rejetant jusqu'à 90% de gaz à effet de serre de moins qu'un gazole. Bénéfice donc pour la planète, mais aussi pour le porte-monnaie, puisque selon l'association Roule ma frite, ça ne s'invente pas, ça fait économiser 50 centimes par litre. C'est loin d'être négligeable, sauf que ça concerne que les anciens diesels et les engins agricoles. En tout cas, ça peut être une piste intéressante, car en France, on consomme 170 millions de litres d'huile par an. Donc Olivier, à l'avenir, peut-être qu'après RTL Midi, vous irez à la cantine manger un bon plat de frites, vous irez récupérer l'huile et ensuite, hop, vous irez faire le plein de votre auto En attendant, ne vous y aventurez pas, c'est illégal, avec de lourdes amendes à la clé et plusieurs centaines d'euros.
Merci Christophe Bourroux, je vais aller négocier effectivement avec le cuistot d'RTL. Et on peut en parler hein, au 3210, si vous avez déjà fait le test, si vous trouvez que c'est une bonne idée, vous nous appelez au 3210 à partir de 13h. Alors en tout cas, l'adoption de cette loi, même s'il y a eu des débats houleux, c'est une victoire pour le gouvernement qui a su en l'occurrence trouver des alliés. Bonjour William Galibert.
Bonjour.
Est-ce qu'on y voit plus clair du coup sur la stratégie du camp présidentiel pour gouverner précisément sans majorité absolue?
Oui, pour l'instant, la tactique, elle peut se résumer en trois points. Encaisser les attaques de la NUP, surveiller le Rassemblement national et draguer les Républicains pour faire adopter les textes. Vous parlez de l'huile de friture dans les moteurs. Ça, c'est l'un des rares cadeaux qui a été fait à la gauche parce que les négociations, elles se jouent quasi exclusivement avec la droite. C'est le cas en ce moment sur les réductions à la pompe, les chèques carburant. C'est là, à droite, que le réservoir de voix est identifié. Mais attention, ces négociations, ce sont des châteaux de cartes très fragiles et il faudra tout recommencer à chaque fois pour chaque texte. Là, il s'agissait de rendre un peu de pouvoir d'achat aux Français. Bon courage à la rentrée quand le gouvernement voudra réduire la durée ou le montant des allocations chômage et qu'il faudra trouver des alliés.
En tout cas, ce texte sur le pouvoir d'achat, c'était le premier grand test pour Emmanuel Macron, qu'on disait pourtant affaibli, sans majorité absolue, on l'a dit. Et là, on découvre ce matin, dans notre sondage BVA RTL Orange, que sa cote de popularité est en forte hausse.
Ah oui, plus 5 points pour le président qui, visiblement, a marqué des points après son interview du 14 juillet. Il a mis la pression sur les oppositions en appelant au compromis et à la négociation. Les Français sont assez raccord avec ça, mais encore une fois, l'actualité s'y prête. Pour l'instant, il s'agit de faire des revalorisations, des ristournes, des chèques, et ça ne sera pas toujours le cas.
Merci beaucoup William Galibert, on en parle avec vous au 3210 sur cette popularité d'Emmanuel Macron plutôt surprenante. Appelez-nous donc à partir de 13h. Il négociait depuis une semaine maintenant, sous la menace de se voir imposer des taxes sur leurs super profits. Total annonce donc un geste supplémentaire. En septembre et en octobre, il y aura une remise de 20 centimes d'euros au litre à la pompe, puis le 10 centimes en novembre et en décembre. Et puis la compagnie de transport maritime CMA-CGM, qui voit elle aussi ses bénéfices gonflés, annonce également une baisse de ses tarifs pour le transport des conteneurs.
RTL Midi.
Depuis deux jours, enfin, les feux n'ont pas progressé en Gironde. Sur les 36 000 personnes évacuées, 6 000 ont pu rentrer chez elles, à la fois autour de la Teste de Buch et du côté de Landiras. Les autorités restent très prudentes, mais à Arcachon, la mairie et les commerçants appellent malgré tout les touristes à revenir, Zoé Pallier.
Oui, ils sont attendus de pied ferme ici dans une des allées piétonnes d'Arcachon. Benoît installe sa terrasse, il a des stocks de cannelés à écouler.
Là, on a perdu, je dirais, 50% en tout cas de clientèle par rapport à d'habitude. En tout cas, il va falloir se réinventer pour que les gens reviennent et qu'ils se sentent en sécurité. Les commerçants sont tous ouverts, donc heureusement, la vie continue un peu partout sur le bassin. Quoi.
Rassurer les touristes, leur montrer qu'il n'y a pas que la dune du Pila à visiter ici, c'est l'objectif du syndicat. Qui regroupe 10 communes du bassin et ça passe par une campagne de communication sur les réseaux sociaux, explique Isabelle Laban, directrice de la promotion.
Par exemple, là aujourd'hui, on va commencer à publier comment découvrir le bassin d'Arcachon sur l'eau. Toute l'offre est toujours aussi présente pour découvrir le bassin sur l'eau. Celle-là n'a pas changé. Le bassin est toujours le même sur l'eau.
Et il y aura aussi des spots diffusés à la télévision. On a besoin de vous, il en va de la survie du bassin. C'est le cœur du message qui sera adressé aux touristes.
Reportage de Zoé Pallier sur le bassin d'Arcachon pour RTL. Et depuis mars 2020, ces avis, ces préconisations sur le Covid ont rythmé nos vies au fil des confinements successifs face à la pandémie. Le Conseil scientifique a donc tiré sa révérence hier soir. La 7e vague a amorcé sa décrue et c'est une nouvelle phase qui commence selon Bruno Lina, qui était membre de ce conseil scientifique et qui était l'invité d'RTL ce matin.
Le pic est passé. Ça va prendre 3 semaines probablement pour retrouver des niveaux relativement bas. Mais le virus n'aura pas disparu. Il continuera à y avoir quelques infections. Et ce que l'on anticipe aussi, c'est que comme au cours des 2 hivers précédents, eh bien, il y aura une reprise épidémique durant l'automne. Bon, on va probablement espacer ces vagues qui vont devenir de plus en plus distantes les unes des autres pour qu'on ait probablement qu'une seule vague hivernale ou automnale. Pour le reste, il y aura très certainement un rappel vaccinal proposé à la rentrée. Et puis après, eh bien, ça va dépendre de l'espacement des vagues. Peut-être qu'on pourra espacer les doses aussi.
Bruno Lina, au micro ce matin de Stéphane Carpentier. Alors, avez-vous encore peur du Covid ? Est-ce que vous faites attention malgré tout cet été ? Vous nous appelez là encore au 3210 à partir de 13h. Et puis à propos de Covid, sachez que la Haute Autorité de Santé s'oppose ce matin à une réintégration des soignants non vaccinés. Il faut continuer à les obliger. Là encore, vous pouvez nous appeler là-dessus. Le gouvernement avait annoncé qu'il suivrait en l'occurrence l'avis là-dessus des autorités sanitaires. On en vient à cette question maintenant. Vladimir Poutine est-il en train de faire plier la détermination des Européens à sanctionner la Russie ? Il y a le chantage au gaz dont on parle et puis il y a la question des céréales également. Bonjour Sophie Jousselin.
Bonjour.
Moscou va signer malgré la guerre normalement un accord avec l'Ukraine sur l'exportation des céréales ?
Oui, l'accord doit être signé cet après-midi à Istanbul. Il permettra l'exportation des 25 millions de tonnes de céréales bloquées dans les ports ukrainiens. Kiev a obtenu que ce soit ses navires militaires qui escortent les convois maritimes jusque dans les eaux internationales de la mer Noire. Les rotations des bateaux seront gérées depuis Istanbul. Les cargaisons seront contrôlées au départ et à l'arrivée par des équipes internationales afin de s'assurer qu'il n'y a pas d'armes à bord. C'était une exigence des Russes. Moscou obtient aussi l'allègement de certaines sanctions occidentales sur les transferts financiers notamment afin d'exporter ses céréales et ses engrais.
Alors ce chantage sur les matières premières, sur le gaz également, c'est une stratégie russe qui est assumée. Est-ce qu'elle est en train de fonctionner ?
Oui, c'est vrai, Vladimir Poutine, elle a dit il compte sur la lassitude de l'Europe, sur ses désaccords. Et hier, le ministre des Affaires étrangères hongrois était à Moscou pour négocier des livraisons de gaz supplémentaires. L'Espagne et le Portugal ont clairement dit ne pas vouloir réduire de 15% leur consommation de gaz, comme le prévoit le plan de Bruxelles. Des petits signes qui montrent que l'unité européenne devient chaque jour un petit peu plus fragile.
Merci beaucoup Sophie Jousselin. Deux mots de sport, d'abord le Tour de France, la 19e étape. Vingegaard a plié le match, semble-t-il, hier au sommet d'Otakam avec sa victoire. Aujourd'hui, c'est Duplat pour les sprinteurs ou les baroudeurs entre Castelnau-Magnoac et Cahors. Et puis à l'Euro féminin de football, les Allemandes se sont qualifiées pour les demi-finales et affronteront les Bleus si elles gagnent évidemment demain soir face aux Pays-Bas en quart de finale. On va faire une courte pause maintenant et puis dans un instant, vous êtes 80% dans notre sondage BVA-RTL à dire que vous avez pris conscience de l'urgence climatique après tout ce qu'on a vécu, la vague de chaleur, la sécheresse et les incendies. On en parle avec nos deux invités sur RTL. A tout de suite.
Olivier Bois, RTL Midi. RTL Midi avec Olivier Bois.
Et on va parler maintenant d'urgence climatique. On vit un début d'été absolument catastrophique entre la sécheresse, la chaleur exceptionnelle qui ont attisé des gigantesques feux dont on parle depuis une semaine, notamment en Gironde. Et dans notre sondage BVA Orange RTL ce matin, on apprend que 80% des Français confient que cela leur a fait prendre conscience justement des effets du changement climatique. On accueille d'abord Christelle Craplet, directrice de clientèle BVA Opinion. Bonjour madame.
Bonjour.
Alors voilà ce chiffre qu'on a 80% de prise de conscience. D'abord, c'est une vraie hausse par rapport à ce que vous pouviez mesurer avant.
Alors c'est considérable hein, quand même. C'est 4 Français sur 5 qui nous disent que tous ces événements leur ont fait prendre conscience des effets du changement climatique. Et ils sont même presque la moitié, 46%, à choisir la modalité de réponse tout à fait. Donc on voit que c'est un vrai sujet. Après, c'est pas tout le monde non plus. Hein, quand même 1 Français sur 5 qui ne fait pas forcément le lien. Mais oui, on sent qu'il y a quand même une certaine évolution des mentalités et une prise de conscience réelle chez les Français.
Sondage, on le dit, on le précise, qui a été fait après tout ce qu'on vient de vivre, sécheresse, canicule et les incendies en Gironde.
Tout à fait, le terrain a eu lieu voilà, ces derniers jours.
Et alors qu'est-ce qu'ils disent quand ils parlent de cette prise de conscience ? Qu'est-ce qu'ils sont prêts à faire par rapport à ça ? Vous avez aussi testé ces réponses-là ?
Oui, et c'est là que le bas blesse un petit peu parce qu'en fait, oui, ils prennent conscience, mais on leur a demandé est-ce que ça vous conduit à changer profondément vos comportements pour limiter votre impact environnemental ? Et là, on voit bien quand même une certaine différence. Alors, ils sont encore les trois quarts, 73% à nous dire oui, ça va me conduire à changer mes comportements.
Ce qui est quand même important.
Ce qui est important, mais il y a toujours une petite part de surdéclaration un peu de ces comportements-là. Et surtout, ce qui est intéressant, encore une fois, je reviens sur ma modalité de réponse, oui, tout à fait, qui est quand même celle qui est la plus engageante. Et là, vous n'avez plus que 28% des Français qui choisissent cette modalité-là. Donc, on voit bien qu'il y a une prise de conscience, sans doute la volonté d'essayer de changer, mais concrètement, ils peuvent être heurtés à certaines difficultés. Et donc là, c'est quand même moins massif, les personnes qui nous disent qu'elles vont changer.
Je ne sais pas si ça avait été testé, mais est-ce qu'il y a aussi le côté, on ne sait pas si notre action individuelle va peser, est-ce qu'il y a ce doute-là ou pas du tout ?
Alors, on l'a pas dans cette enquête-là, mais on fait d'autres enquêtes sur le sujet et on voit bien effectivement qu'il y a plusieurs thématiques. Hein. Il y a effectivement pour certains Français une forme d'impuissance, de fatalité, de se dire est-ce que moi, à mon niveau, ça va vraiment changer quelque chose. Le sentiment pour certains aussi que c'est peut-être à d'autres, les industries, l'État, les entreprises d'agir. Oui. Voilà. Ou pour certains aussi, la difficulté concrète à changer parce que tout le monde n'a pas les moyens d'arrêter d'utiliser sa voiture, d'acheter un véhicule plus propre ou d'avoir des comportements vertueux. Donc, c'est un peu tout ça derrière, sans doute, qui explique que tout le monde ne va pas massivement vers un changement de comportement.
Eh bien, merci beaucoup, Christelle Craplet, d'avoir été avec nous. Donc, vous êtes directrice de la clientèle BVA Opinion. Voilà donc pour le constat et précisément sur ce qu'on peut faire, sur ces gestes du quotidien, sur la façon de convaincre les Français. On va accueillir maintenant Anne Bringot, qui est coordinatrice des programmes à Réseau Action Climat. Bonjour, madame.
Bonjour.
Alors, vous avez entendu le constat et notre sondage BVA Orange RTL. D'abord, quand vous entendez 80% des Français disent qu'ils ont pris conscience de l'urgence climatique à la faveur des drames qu'on vit en ce début d'été, comment vous accueillez ce chiffre ?
Alors, c'est vrai qu'avant le changement climatique, on parlait de phénomène comme quelque chose qui allait affecter les générations futures, les gens, nos enfants. Maintenant, en fait, c'est maintenant. On y est. On voit de plus en plus les phénomènes climatiques extrêmes, comme les sécheresses, les incendies, les inondations. Et les chiffres le montrent. Sur les 45 vagues de chaleur qui ont eu lieu depuis l'après-guerre, depuis 1947, 21, presque la moitié, ont eu lieu depuis 2010, donc dans la dernière décennie. Et en fait, ça crée une angoisse parce qu'on perçoit effectivement ces changements mais on ne sait pas quoi faire. Et c'est important d'expliquer effectivement que le premier secteur émetteur de gaz à effet de serre en France, c'est les transports. Et c'est la voiture qui émet le plus de gaz à effet de serre avec les carburants qu'elle consomme. Et là, on peut agir et passer à l'action, ça peut aussi réduire son angoisse face à ce phénomène un peu global. On peut prendre le vélo sur des petites distances, on peut covoiturer, on peut prendre le train, on peut également choisir une voiture plus petite ou un véhicule électrique, elle est accessible, donc c'est important de donner accès à ces solutions. Et puis ce qui a le plus d'impact pour réduire les émissions de gaz à effet de serre à court terme, c'est de réduire sa consommation de viande et de produits animaux et de manger une viande de meilleure qualité. Donc par exemple, 2 ou 3 jours, ne pas manger de viande, c'est meilleur pour la santé, on gagne en qualité de vie. Et là, c'est un énorme impact sur le climat à cause des émissions de méthane, c'est les fameux rôdés des ruminants. Et deuxième geste important, éviter de prendre l'avion. C'est vraiment l'avion, c'est ce qui émet le plus de gaz à effet de serre. Donc il vaut mieux aller faire du tourisme en France où c'est très beau ou prendre des trains de nuit qui sont en train de se développer.
Et entre le déclaratif dans un sondage et la réalité du terrain, est-ce que vous le voyez par exemple, la prise de conscience ? Est-ce que vous voyez quand même une évolution par rapport à ça ?
Il y a une évolution, mais il y a toujours une méconnaissance en fait sur les origines et sur ce que chacun peut faire. Donc c'est vrai que et puis il n'y a pas forcément accès aux solutions sur la voiture, c'est un sujet. On voit que ça progresse. Les sondages montrent aussi que de plus en plus de Français sont prêts à rouler à 110 km/h sur l'autoroute. Mais maintenant il faut une action des politiques publiques. C'est vrai qu'il y a ce double langage des politiques qui perturbe aussi les choses. Quand on a un gouvernement et un parlement qui viennent de décider de l'installation d'un nouveau terminal méthanier, de relancer une centrale à charbon et de continuer à financer le
message n'est pas le bon pour que chacun se saisisse du sujet. Quoi. C'est l'argument qu'on entend, oui, mais pourquoi nous on le ferait quelque chose alors que ça se joue beaucoup plus haut? On l'a beaucoup entendu, notamment avec les auditeurs d'RTL.
Tout à fait, les gens sont prêts à faire des efforts, à changer leur comportement, mais si c'est justement réparti. Donc il faut donner accès aux solutions, y compris aux revenus les plus bas, et aussi que chacun, effectivement, y mette du sien, y compris les entreprises, l'État, les pouvoirs publics.
Eh bien, merci beaucoup Anne Bringot d'avoir été l'invitée de ce RTL Midi. Je rappelle que vous êtes coordinatrice des programmes à Réseau Action Climat. Merci, bon après-midi à vous et à bientôt sur RTL. On fait une courte pause dans un instant, RTL chez vous, la route sur la route du Tour avec Christophe Paco. Plus de montagne au programme et le Tour qui semble à peu près joué maintenant avec Vingegaard en jaune. A tout de suite sur RTL.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
Tour de France 2022.
RTL, chez vous.
Christophe Paco.
Bonjour Christophe Paco.
Bonjour Olivier, bonjour à tous.
Alors effectivement, on y voit plus clair après la dernière étape pyrénéenne. Vingegaard a creusé l'écart en gagnant l'étape au sommet de Takam. Sauf catastrophe, il sera le vainqueur du Tour de France. Et cet après-midi, on est sur les routes du sud-ouest, à plat, entre Castelnau-Magnouac et Cahors, Christophe.
Oui, sur les terres du meilleur joueur de rugby du monde. Aujourd'hui, notre capitaine tricolore, ici dans son village de Castelnau-Magnouac, Antoine Dupont. Ça va secouer, c'est vrai, dans le sud-ouest avec un sprint à Cahors ou pas. L'avis d'un spécialiste vainqueur dans les années 90 de deux étapes du Tour de France, Frédéric Moncassin, sprinteur hors pair. Le point étape du Parisien aujourd'hui en France. Rencontre avec Claude Dartois, star de Koh-Lanta. Et comme tous les jours, comme le veut la tradition, le coup de cœur de Laurent Jalabert. RTL chez vous, c'est parti.
RTL chez vous, Christophe Paco.
RTL chez vous avec Antoine Dupont, le meilleur joueur de tous les temps du rugby aujourd'hui, qui a tout gagné. On est chez vous, c'est incroyable.
Oui, ben on a la chance de voir passer le Tour de France depuis des années. Moi, depuis petit, j'ai l'habitude de venir le voir. Et là, je vais avoir la chance de le recevoir dans mon village natal. Donc, c'est un grand honneur.
Avec le restaurant, avec le frère.
Oui, non, il y a toutes les conditions qui sont réunies. Le village est en ébullition depuis plusieurs semaines maintenant. Donc, on a hâte que ça arrive.
Le plat préféré d'Antoine Dupont là-bas, c'est quoi?
Il y a le magret en cocotte ou les côtes de porc noir de Bigorre, ça dépend le jour.
C'est une institution, quoi.
Oui, dans le coin, oui. Et puis, ouais, c'est ça qu'on a la tradition familiale qu'on a essayé de perpétuer avec mon frère en rénovant du coup le domaine de Bartas.
Il y a des maillots d'Antoine Dupont déjà?
Non, pas vraiment, on a essayé d'éviter un peu la déco trop rugby.
Je vois le physique sur le vélo, c'est comment pour le Tour de France? On fait une étape ensemble, on fait 30 km tous les deux?
30 peut-être, mais pas beaucoup plus. Honnêtement, je leur laisse, je suis assez admiratif de ce qu'ils peuvent réaliser et reproduire chaque jour.
Il y a une grande saison qui arrive, la Coupe du Monde et tout ça.
Ouais, on y croit, merci.
Tour de France 2022, RTL chez vous.
Quel plaisir de retrouver ceux qui nous ont fait rêver, le village du Tour évidemment, avec un régional de l'étape. Frédéric Moncassin, c'est tout le sud-ouest quand vous parlez.
Bon, je suis du sud-ouest.
Voilà.
C'est quand même ma fierté.
Frédéric Moncassin, ben, on a l'image de quoi? D'un sprinteur bagarreur?
Oui, bon, j'étais bagarreur peut-être parce que je me débrouille un peu tout seul, mais j'aimais ça. Peut-être que c'est le côté toulousain qui ressort. J'ai pas été rugbyman parce que je me suis fait virer de l'école à cause du rugby. J'aime bien quand il y a du contact, que c'est un peu chaud. Et c'est ce qui m'a fait vibrer, quoi.
Votre spécialité, bien sûr, c'est le sprint de victoire sur le Tour de France, Frédéric Moncassin. Et quand on voit les arrivées d'aujourd'hui, il y a pas mal de respect quand même. Il y a eu des accidents graves, hein, bien sûr, depuis.
Pas tant que ça. Moi, je trouve qu'il n'y en a pas tant que ça. On peut pas aller tout droit comme à 70 ou 80 à l'heure. Et il y a des coins, des fois, on va chercher la spi, machin, truc. Donc, c'est dangereux. Donc, c'est comme quand on dit un pilote de Formule 1, c'est un fada. C'est pareil, le mec, il sait conduire vite.
Ouais. Le plus beau des sprints, ça reste quoi? Les Champs-Elysées?
C'est mythique parce que c'est l'arrivée du Tour de France. Après, le plus beau des sprints, c'est quand il y a tous les sprinteurs. Ouais. Moi, je ne vais pas vanter mon truc, mais quand j'ai gagné à Sertogenbosch, c'était une étape en Hollande où il y avait tous les sprinteurs. Et la photo, pour moi, c'est la plus belle. Ce jour-là, j'ai été le meilleur sprinteur du monde parce que tout le monde est sur la photo.
Est-ce que le cyclisme a un petit peu changé? Est-ce que c'est quand un peu comme le rugby? Ça s'est plus professionnalisé?
C'est comme tous les sports. Tout est pesé, quantifié. Pour moi, qui suis quelqu'un qui met la vie un peu libre, je serais coincé là. Parce que ça me plaît pas trop. Les entraîneurs qui contrôlent tout, les capteurs de puissance, c'est pas bon tout ça. Enfin bon, moi je suis un peu con, mais en fait, je parle comme un vieux con qui refuse un peu l'évolution. Et moi, ce qu'ils font là, en tout cas, tous ces jeunes coureurs pros du Tour de France, tous, hein, je les admire, ils me filent les larmes aux yeux. Ils s'arrachent, ils sont beaux, ils ont quand même la belle vie.
Ouais, puis un peu plus d'argent aussi aujourd'hui par rapport à votre époque, on en parle souvent de cette différence. Hein.
Alors l'argent, c'est la question que j'aime pas. Parce que l'argent, moi j'en ai gagné. Mais je faisais pas du vélo pour ça. On me donnait ce que je méritais. Je sais pas si le partage se passe comme avant. Avant, un gars qui gagnait, au tour, il passait pas au partage. Et le mec, il laissait sa part.
C'est un peu logique que Vingegaard, qui est certainement payé plus cher que ses équipiers, ne partage pas quoi finalement les gains qu'il laisse à ses équipiers.
Voilà, oui, mais il a un salaire qui va avec. Donc, puis les gars s'arrachent la tête pour l'amener devant. Non, mais ça, c'est top. Et il faut bien ça. Ils sont professionnels, il faut gagner de l'argent. En tout cas, moi, c'est pas ce qui me faisait courir.
Frédéric Moncassin, sprinter d'exception aujourd'hui dans RTL chez vous. Merci, Frédéric.
Avec plaisir, merci à toi.
RTL chez vous.
RTL chez vous avec Claude Dartois de Koh-Lanta. Salut à toi.
Salut Paco, comment vas-tu?
C'est une tradition de te revoir. Moi je vais bien, mais c'est toi au bout de 30 km.
Bon, 30 km ça va, c'est une petite promenade. Voilà, bah, une route pour nous ouverte, une ferveur sur le bord de la route, donc top. Je suis très content qu'on ait du monde pour pouvoir justement donner un maximum de visibilité à Mécénat Chogé-Cadac pour lequel je suis venu évidemment. On a pour but de lever un maximum de fonds évidemment. On a le but de sauver 21 enfants comme 21 étapes du Tour de France. Et j'espère qu'on en sauvera encore plus avec des dons. Imaginez ce que ça peut qu'un enfant peut ressentir quand il n'a pas toutes les capacités physiques. physique optimale. C'est pour ça que je suis très content qu'on puisse le montrer, le démontrer et que les gens puissent nous aider.
C'est une tradition, c'est vrai que maintenant tu reviens depuis combien de temps? Ça fait quoi?
C'est ma troisième année. Ah oui. J'espère que ça pourra perdurer longtemps. Paul Belmondo, on est à sa 19e, je crois. Donc voilà, tu m'associes le sport avec l'aide aux enfants. C'est tout à fait normal que je puisse venir.
On se tire un peu la bourre entre champions, là, avec Belmondo par exemple?
Aujourd'hui, Paul, hier, il était sur une grosse étape. Aujourd'hui, je pense qu'il était un peu tranquille. Mais aujourd'hui, j'ai gagné l'étape. Donc,
mais
ça
non
me... j'ai gagné.
J'ai le vainqueur de l'étape avec moi.
Donc c'était cool. Après, on s'est tiré la bourre un peu. Mais après, le but ici, c'est surtout le partage, l'échange. Moi, j'aime bien me faire un peu violence. Je profite des moindres instants pour me challenger. Mais le but n'est pas là. Le but, c'est vraiment de partager avec le public, de démontrer et de montrer notre beau maillot de mécénat chirurgie cardiaque à tous et au plus grand nombre.
Merci Claude encore une fois d'avoir été avec nous. On te dit à très vite et l'an prochain, on te retrouve à vélo, bien sûr.
Avec un grand plaisir. Chaque année, si tu me fais venir, je viens, pas de problème.
RTL, c'est vous.
Les dés sont jetés, Christophe Béhard. Bonjour à vous du Parisien aujourd'hui en France.
Salut Christophe.
Ouais, c'est vrai, c'était magnifique hein, ce Tour de France quand même.
Un très 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 beau tour. Franchement, je suis pas certain que j'aurais pensé que j'aurais signé pour un tour d'une telle intensité. Merci à Tadej Pogacar, merci évidemment à Jonas Vingegaard de nous avoir offert un spectacle assez passionnant parce que quelque part, ils ont un peu oublié les tactiques de course. Ils sont tapés dessus homme contre homme. C'était un combat de boxe avec l'un qui attaquait l'autre qui rendait. Ça s'est terminé par un chaos technique à Otakam. C'était chouette, c'était beau, c'était passionnant. Merci à ces deux-là. On s'est amusé. Merci à eux. En revanche, petit bémol.
Voilà.
Oui, j'ai peur qu'on soit parti. Peut-être que ce soir j'aurais tort, mais qu'on soit parti pour un zéro pointé du côté des Français aux victoires d'étape. Deux fois dans l'histoire, 1926-1999, ce qui veut dire que pour la première fois du 21e siècle, on aura un zéro pointé. On aurait un zéro pointé chez les Français. Mais malgré ça, on a eu un tour magnifique, pas forcément bleu, blanc, rouge, mais jaune, 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 et ça c'était chouette.
Merci mille fois Christophe Béhard d'avoir été fidèle au rendez-vous tous les jours du lundi au vendredi sur RTL. Merci à vous.
À très bientôt, merci.
Tour de France 2022. RTL, chez vous.
Laurent Jalabert, bonjour.
Bonjour.
Votre image forte de ce Tour de France?
Mon image forte, mon coup de cœur, c'est cette poignée de main entre Vingegaard et Pogacar, alors même que l'étape n'est pas terminée. Après la chute de Pogacar, Vingegaard qui lève le pied, les deux hommes se sont livrés une bataille sans merci. Pogacar a mis la pression sur Vingegaard. Finalement, c'est lui qui part à la faute. Mais comme un symbole, voilà, tu m'attaques, mais je te respecte. C'est du sport, on reste amis malgré tout. Et au bout du compte, cette poignée de main, elles sont un peu comme une passation de pouvoir entre les deux. Pogacar vaincu par Vingegaard, mais Vingegaard chevaleresque aussi parce qu'il s'est défendu avec beaucoup de bravoure. Et à aucun moment, il n'a voulu profiter de la situation quand Pogacar est parti à terre hier.
Et nous ce soir, on a rendez-vous?
Club Jalabert, 18h30, comme tous les soirs.
Christophe Paco, RTL, chez vous.
Et n'oubliez pas, standard ouvert dès maintenant, 3210, 3210 pour poser toutes vos questions à Laurent Jalabert. Belle journée à l'écoute du Tour de France, Olivier Bois.
Merci Christophe Paco, 3210 ouvert également tout de suite pour les auditeurs en la parole, donc dans quelques instants avec vous, jusqu'à 14h30. Donc le départ c'est tout à l'heure à 13h20 sur le Tour et on sera dès 13h30 sur la moto RTL avec Hortense Crépin. On va faire une courte pause dans un instant, le rappel des titres. J'en profite pour remercier Sophie Orange qui a assuré la rédaction en chef de ce journal de midi, de cette tranche RTL midi tout au long de la semaine. A tout de suite sur RTL pour le flash de 13h. Il est 13h sur RTL.